Alors, je vous invite à la prière d'abord, à prier. Notre bon Père Céleste, nous venons à toi ce matin, recevoir le pain, la parole sainte. Merci en effet de ce que tu es un Dieu qui nous parle, merci de ce que ta parole est nourrissante. Merci parce qu'elle nous conduit à Jésus, pour avoir la vie en lui. Notre bon Père Céleste, nous te demandons ce matin, par ton esprit, que ton esprit soit notre enseignant ce matin. Que ton esprit éclaire notre compréhension de la parole et que l'esprit l'applique à nos cœurs pour que nous te connaissions davantage, pour que nous t'aimions davantage et pour que nous te suivions, que nous suivions ton Fils plus fidèlement. Et nous te demandons ces choses en son nom. Amen. Alors, je vous invite à trouver dans vos Bibles blanches ou vos Bibles tout court, l'épître de Paul aux Romains. C'est à la page 732. Est-ce que vous êtes de nature oublieuse? Est-ce que par moment votre mémoire défaille? Trop souvent d'ailleurs. Ça m'arrive d'entendre quelque chose de très important et juste quelques instants plus tard, je l'ai déjà oublié. Bon, ce matin, nous allons faire quelque chose de relativement inhabituel. On va revenir à la série que nous avons commencée au mois de septembre dans l'épître de Paul aux Romains. On va survoler ce qu'on a déjà vu, les 8 premiers chapitres, avant de commencer une nouvelle section, les chapitres 9 à 11, la semaine prochaine. Et ça pour rafraîchir notre mémoire, la vôtre, mais aussi la mienne. Et j'espère que ça peut nous servir de rappel. Et plus que ça, ma prière ce matin, c'est que ce survol enracine l'évangile dans nos cœurs. Tu conduis à avoir une confiance renforcée, fortifiée dans les promesses que Dieu nous donne dans cette épître. Et aussi, peut-être surtout, que ça conduise nos cœurs à adorer Dieu avec plus d'ardeur. Donc, je vous invite à trouver le chapitre 1 de cette épître et de garder l'épître ouverte pendant la prédication. On va parcourir. Je ne vais pas faire une longue lecture au début. J'ai juste fait quelques lectures brèves au fur et à mesure. Alors, comme vous le savez déjà, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre. Il a écrit pour les chrétiens qui habitaient à Rome, Rome qui était la capitale de l'Empire. Et Paul avait le projet de les rendre visite. Et c'est pour ça qu'il écrit cette lettre. Il veut venir à Rome et il veut prêcher l'évangile à Rome avant d'aller plus loin, d'entamer un voyage missionnaire en Espagne. Et donc, il veut fortifier leur foi par cet évangile, en y allant, en prêchant l'évangile. Mais en fait, il le fait à l'avance dans cette lettre. Donc, il veut fortifier leur foi. Et ça, pour leur faire du bien, et aussi pour les encourager à le soutenir dans son voyage missionnaire en Espagne, dans cette prochaine étape de l'évangélisation de l'Europe. Et sans doute, c'est ce qu'il veut faire aussi pour nous ce matin. Il veut fortifier notre foi par l'Évangile pour qu'on soit nous-mêmes des partenaires dans l'annonce de l'Évangile, là où Dieu nous a placés dans la vie quotidienne. Alors, c'est au milieu de... Merci. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Alors, en général, on n'a pas honte de choses qui fonctionnent, qui font l'affaire, des choses qui sont de qualité, des produits de qualité. Si une entreprise vend un produit qui ne marche pas ou qui se casse rapidement, c'est pas bien, c'est un peu honteux, c'est de la mauvaise pub. Alors, l'Évangile n'est pas un produit, l'Évangile n'est pas un service commercial. Mais Paul sait d'une manière sûre et certaine que l'Évangile ne va pas nous rendre honteux. L'Évangile ne va pas nous faire rougir de honte. Non, parce que l'Évangile, il est vraiment la puissance de Dieu qui sauve quiconque croit. Alors, il dit du juif d'abord et ensuite le non-juif. Parce que le salut que Paul annonce dans cet évangile n'est pas juste quelque chose qui a été ajouté pour les non-juifs, qui jusque-là ne faisaient pas partie de l'Alliance. Mais on va voir, ils sauvent tous, juifs et non-juifs, de la même manière. Dans le verset 17, cet évangile révèle une manière d'être juste, d'être déclaré juste. Ça veut dire se trouver en bon terme avec Dieu, par la foi, et rien que par la foi. Se trouver en bon terme avec Dieu, c'est être considéré comme juste, être considéré comme acceptable, agréable à ses yeux. Et ça, c'est le salut. Et Paul veut renforcer, fortifier notre foi ce matin. Il veut nous persuader que l'évangile que nous avons cru ici, à la Garenne, au XXIe siècle, n'est pas un simple placebo, une pilule pour nous donner une espérance qui, quoique fausse, nous facilitera la vie ici-bas. C'est peut-être ce que certains de nos amis pensent de notre foi, n'est-ce pas? Et peut-être par moments, c'est ce que vous pensez vous-même. Parce que oui, nous passons tous par des moments de doute, de faiblesse. C'est parfois le cas quand notre péché nous attriste, quand on n'arrive pas à vaincre ce péché persistant dans notre vie. Ou c'est peut-être parfois le cas quand nous passons par un moment de souffrance, par la maladie, par la solitude, peut-être par des conflits familiaux, peut-être par le mépris parce qu'on est chrétien au travail. Ou quand ça arrive à une sœur ou un frère en Christ qui nous est cher. On se dit, est-ce que cette confiance, est-ce qu'elle est vraiment fondée? Est-ce que mon espérance est fondée ou est-ce qu'elle est simplement un leurre, une béquille pour le faiblard que je suis? Paul va nous montrer ce matin dans ces 8 chapitres que cette confiance que nous avons, cette confiance en Christ, parce qu'en Christ, ne nous fera pas rougir. Par l'évangile, par Christ, Dieu va nous ramener à la maison, chez lui. C'est chose sûre et certaine. Paul n'a pas honte de cet évangile. Il sauve vraiment. Alors, est-ce que je peux vous inviter à juste tricher un peu et voir ça aussi à la fin du chapitre 8? On a commencé au début, on a juste la fin du chapitre 8, les deux derniers versets. Là, on va voir où Paul veut nous emmener ce matin, les versets 38 et 39. Et là, on lit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Parce que Paul est intimement convaincu que celui qui met sa confiance en Christ verra vraiment Christ. Il ne sera jamais séparé de son amour. C'est chose sûre et certaine. Cet évangile ne va pas nous lâcher. Il n'est pas un produit bon marché d'une qualité douteuse qui se casse ou qui devient périmé. Il est un cadeau d'une valeur inestimable qui marche, entre guillemets. Une valeur inestimable parce que scellée par le sang de Jésus lui-même qui, comme le début du chapitre 1 nous dit, et selon la chair, fils de David, et déclaré par l'Esprit à la résurrection, fils de Dieu, Jésus, notre Seigneur. Alors pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce salut? Ça, c'est la première question que j'aimerais poser ce matin. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cet évangile? Qu'est-ce que Paul dit? Et je vous invite à revenir au chapitre 1, et on va lire les versets 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Paul explique ici le problème auquel nous faisons tous face. Chaque être humain est sous la juste colère de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas adoré Dieu comme Dieu de tout notre cœur. Pire, nous avons adoré à la place sa création, nous-mêmes. Et Dieu dans sa juste colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a livrés à ses désirs pécheurs, ses désirs idolâtres. Des désirs qui sont profondément contre celui qui nous a donné la vie. On a tous tendance à relativiser notre désobéissance. On se dit, on n'est toutefois pas aussi mauvais que Bachar al-Assad ou Hitler. Paul nous montre dans ces chapitres que qui que nous soyons, nous sommes tous pécheurs, tous désobéissants. Et beaucoup plus que nous ne le pensons. En fait, chacun de nous sous-estime l'étendue de de notre péché et la gravité de cette désobéissance. Et Paul ne parle pas ici juste d'hommes et de femmes qui, de manière ostentatoire, ne suivent pas la parole de Dieu. Il parle aussi des non-juifs à l'époque, qui avaient l'Ancien Testament, la Bible. Et peut-être à notre époque, on peut penser à ceux qui grandissent dans l'Église, qui connaissent la parole, qui sont peut-être des bons membres d'Église. En fait, Dieu serait juste de nous condamner tous. Et c'est vrai, instinctivement, on a tous un peu de mal avec ça. Notre conscience essaie de nous dédouaner, de nous excuser. En fait, c'est parce que nous ignorons à quel point Dieu est saint, à quel point il est digne de toute notre adoration, toute notre obéissance. Quand on s'oppose à Dieu, on s'oppose à celui qui nous a donné la vie, à notre Créateur, à celui à qui nous devons obéissance et adoration. Il nous a créés. Le mal est vraiment mauvais et une offense gravissime à l'égard de notre Créateur. Et si Dieu est juste, et il est, il doit condamner, nous condamner. Il doit condamner ce péché, mais nous condamner, nous méritons sa condamnation. Je vous invite à lire avec moi les versets 19 et 20 du chapitre 3. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, là, il pense à la loi de l'Ancien Testament, les 10 commandements. C'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit. Là, il pense aux Juifs. Afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier, juif et non-juif, soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, parce que c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Est-ce que Paul conclut ici, au milieu du chapitre 3? Il conclut que par nos efforts, aussi beaux qu'ils soient, aussi religieux qu'ils soient, nous ne pouvons pas être acceptable et agréable aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas, par nos efforts, effacer notre dette. La loi ou connaissance du bien et du mal ne nous aide pas. Elle ne fait que nous juger coupables. Qui que nous soyons, quel que soit notre niveau de gentillesse humaine, nous sommes tous exposés à la juste colère de Dieu, tous coupables. Et nous avons besoin d'être sauvés de sa colère. Voici le danger qui nous guette. C'est Dieu qui nous guette. Le Dieu trois fois saint. Qu'est-ce que c'est terrible de tomber entre les mains d'un Dieu si saint. Et plus on réalise ça, plus on comprendra la suite et la bonté, la grandeur de l'Évangile. Plus on sera rempli de reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'il a fait au juste? Quelle est la suite? On va lire les versets 21 à 25 du chapitre 3. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes est manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Nous sommes là au cœur de l'Évangile, et on y voit la grandeur de Jésus, la nécessité absolue de sa mort sur la croix. Il a fallu que Dieu intervienne, parce que l'homme est incapable de se sauver. Ses efforts ne vont pas contribuer à ce salut, ne contribuent rien à ce salut. C'est ce que le verset 21 nous dit. C'est indépendamment des œuvres de la loi. C'est indépendamment de nos efforts. On ne peut rien contribuer à ce salut. C'est l'œuvre de Dieu, du début jusqu'à la fin. Mais qu'est-ce que Dieu a fait au juste? Regardez le verset 25. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, comme un sacrifice, comme une victime expiatoire. Dans d'autres traductions, c'est propitiatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la croix, Jésus a été un sacrifice qui a apaisé la juste colère de Dieu. Un sacrifice qui a apaisé la juste colère de Dieu. Et comment est-ce que ce sacrifice a apaisé la juste colère de Dieu? C'est à la fin du verset 25. En satisfaisant la justice de Dieu. Il s'agit de satisfaire la justice de Dieu. Jusque-là, quand Dieu avait pardonné les fautes aux hommes, il n'avait pas puni ses péchés. Mais en Jésus, à la croix, les fautes pardonnées ont été punies de manière juste. Et c'est Jésus qui a payé le prix juste pour tous les péchés que Dieu avait déjà pardonné par le passé et toutes les fautes que Dieu allait pardonner par la suite, à l'avenir. Dieu est juste. Dieu n'a pas simplement pardonné en fermant ses yeux, en disant que tout ça, c'est pas grave. Non, si, c'était grave. C'est ce qu'il nous a montré au chapitre 1 à 3. Mais dans son amour, dans sa grâce, c'est lui-même, en Christ, en le Fils qu'il a payé la facture. C'est Jésus qui a subi à notre place le juste châtiment. Et justice divine est-il faite. Mais elle est tombée sur Christ, le Fils, Dieu lui-même. Et qu'est-ce que nous devons faire? Comment en bénéficier? Verset 22. Nous devons tout simplement croire en Jésus-Christ, recevoir Christ. Ça veut dire mettre notre confiance en lui. Christ nous est offert comme un cadeau. C'est Jésus le cadeau. Par grâce, gratuitement. On reçoit Jésus, lui qui est juste. Il est le cadeau à saisir par la foi. Qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que ça sauve? Verset 23. Dieu déclare juste, acceptable à ses yeux, agréable à ses yeux, tous ceux qui ont mis la confiance en Christ. Il peut nous déclarer juste, nous qui ne sommes pas justes. Il peut nous déclarer juste parce que nous avons été vêtus en quelque sorte de la justice de Christ. Nous avons reçu la justice de Dieu, la justice de Jésus. Qu'est-ce que c'est cette justice de Jésus que nous devons recevoir? C'est Jésus lui-même, c'est sa vie parfaitement obéissante, agréable à Dieu. C'est sa mort qui satisfait pleinement la justice divine. Nous recevons Christ, nous recevons sa justice, la justice de Dieu. Nous sommes comme vêtus de sa justice. Et du coup, Dieu peut nous déclarer juste, nous qui ne sommes pas justes. Il peut nous déclarer juste de manière juste parce que nous avons réellement cette justice, cette vie obéissante, cette mort qui satisfait sa justice. Nous l'avons, nous sommes en Jésus, couverts de Jésus, au bénéfice de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus nous est si précieux, n'est-ce pas? La foi chrétienne n'est pas juste une longue liste de choses à faire ou à ne pas faire. C'est avant tout une personne, être en Jésus, recevoir Jésus, être à Jésus. Jésus, c'est le cadeau que nous recevons. Christ nous est donné. Ce Christ qui, lui, est pleinement acceptable, pleinement agréable à son Père. Et la preuve tangible, c'est que Dieu l'a ressuscité. Au chapitre 4, Paul nous montre que l'évangile n'est pas une nouvelle manière d'être sauvé, comme si il y a 2000 ans, Dieu a changé d'avis et maintenant c'est comme ça. Non, ça a toujours été comme ça. Le salut a toujours été par la foi. Il n'a jamais été obtenu par notre performance morale. Abraham et David sont nos modèles dans l'Ancien Testament. Ils ont cru Dieu sur parole. Ils n'ont pas été sauvés ou déclarés en bons termes avec Dieu parce qu'ils ont pu atteindre un niveau de perfection morale. Non, loin de là, on connaît leur vie. C'était simplement par la foi en les promesses de Dieu, des promesses qui se sont accomplies en Jésus. Eux aussi, ils ont été sauvés par la grâce seule, par la foi seule, la foi en ses promesses qui se sont accomplies en Christ. Alors, faire confiance à Jésus, accepter Christ comme ce cadeau n'est pas toujours chose facile. Parce que c'est reconnaître que nous n'avons rien en nous-mêmes pour plaire à Dieu, que nous ne pouvons pas être à la hauteur. Pire, que nous méritons sa condamnation. Nous devons nous humilier, accepter que nous sommes impuissants, nous sommes incapables de plaire à Dieu et recevoir comme un enfant le cadeau qui est Christ. J'aimerais vous poser la question ce matin. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez mis votre confiance en Christ? Il n'y a pas d'âge pour faire ça. Qu'on ait 90 ans, 50 ans, 20 ans, 12 ans, 5 ans. On peut le faire même aujourd'hui, peut-être même ce soir. Il suffit de prier, de reconnaître notre besoin devant Dieu et de lui demander de nous pardonner. Non pas parce que nous avons atteint un niveau de perfection morale, mais simplement en vertu de ce que Christ a fait sur la croix. Cette fois, cette confiance en lui se manifeste publiquement dans le baptême. Ce symbole qui symbolise si parfaitement cette confiance, cette union avec Jésus. On est mort avec lui au péché. On dépend de lui entièrement pour notre résurrection à la vie, pour la vie éternelle. N'hésitez pas à demander ce baptême si vous avez mis votre confiance en Christ. Et au début du chapitre 5, Paul résume les effets de ce salut, de cette confiance en Christ, au quotidien, au présent. Je vous invite à lire les versets 1 et 2. Du chapitre 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. J'aime bien le cantique devant le trône du Très-Haut parce que je pense que c'est un cantique qui exprime bien l'assurance que nous voyons dans ces versets, l'assurance qui découle de la croix. Voici un des strophes. « Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon Sauveur, mon Dieu. » Parce qu'en lui, caché en lui, déclaré juste en lui, nous avons la paix avec Dieu. Dieu n'a plus rien contre nous. Plus de colère. C'est terminé, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui a mis sa confiance en Christ. Pour toujours, c'est terminé. Nous sommes dans la grâce. Et ça pour toujours, contrairement à ce que l'Église catholique, par exemple, prétend. Dieu nous accepte pour toujours, une fois pour toutes, en Christ. Parce que ça ne dépend pas de notre performance morale de demain ou d'après ou après-demain. Ça dépend de ce que Jésus a déjà fait. Et c'est pour ça que nous pouvons avoir une si ferme espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Ça ne dépend pas de moi, de ma performance, mais de Jésus, de ce qu'il a fait lui. Les chapitres 5 à 8 nous montrent la fermeté de notre espérance. On voit d'abord au chapitre 5 que cette espérance est si ferme parce que nous avons changé de régime de manière permanente, de manière définitive. Nous étions auparavant sous le régime d'Adam. Dans ce régime-là, le péché régnait sur nous par la loi qui nous condamnait. Ça donnait la mort éternelle. On est sous ce régime-là. Chaque être humain naît dans ce régime-là. Mais parce que Dieu nous a aimés, il nous a donné un nouvel Adam, un nouveau chef de l'humanité en quelque sorte, Jésus-Christ. Et son règne, c'est un règne de grâce, de pardon gratuit. Il y a le don de la justice, sa vie obéissante, parfaite, sa mort qui satisfait la justice divine. Et par lui, par sa justice, nous avons la vie gratuitement. Nous avons changé de pays en quelque sorte. Nous sommes comme des immigrants qui ont une nouvelle identité, un nouveau passeport. Ces choses faites, nous avons fait notre vœu d'allégeance. Nous avons cédé notre ancienne nationalité. Nous avons une nouvelle citoyenneté. C'est fait. Ces choses faites. Mais en même temps, nous avons un pied dans cette ancienne patrie. Nous avons notre nouveau passeport. Nous sommes en quelque sorte à l'aéroport, même sur la passerelle, pour rejoindre l'avion, pour décoller de manière définitive. Et nous avons un pied dans l'ancienne patrie. Et en attendant, le quotidien du croyant qui attend sur cette passerelle est marqué par deux choses. Deux choses qui peuvent parfois nous conduire à douter de si l'Évangile a vraiment fonctionner, si notre espérance est vraiment ferme et sûre. C'est d'abord la lutte avec notre péché, la lutte contenue, et c'est aussi la souffrance. Mais Paul va nous expliquer que ces deux choses-là ne sont pas synonymes de défaite. Ça ne veut pas dire que notre nouvelle citoyenneté a été déchue, enlevée. Ces choses ne veulent pas dire que la foi en Christ n'a pas marché. Au contraire, ces deux choses-là, la présence de ces deux réalités, attestent de l'authenticité de notre foi. Jetez un coup d'œil sur le chapitre 6 et les versets 3 et 4. Paul répond à la question, allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Et il dit au verset 3, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Notre baptême nous pointe vers cette nouvelle réalité, cette nouvelle identité. Nous n'avons plus à vivre pour le péché. Ça, c'est notre ancienne patrie que nous avons laissée derrière nous. Ce n'est plus nous. Nous ne sommes plus ces cadavres ambulants, mais des femmes, des hommes, des filles, des garçons qui sont en Christ avec cette nouvelle identité, qui sont maintenant vivants à Dieu. Il ajoute au verset 11 à 13, « De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu, Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché, comme des instruments de l'injustice. Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu, comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Il dit un peu plus loin que nous avons été libérés de la condamnation du péché. Mais le péché est toujours là, et avec cette nouvelle identité, on lutte contre ce péché. L'Évangile nous a libérés pour lutter. Et cette lutte n'est pas le signe que l'Évangile est impuissant. Cette lutte ne nous condamne pas. Elle ne nous exclut pas de la présence de Dieu. Elle ne défait pas le salut que Dieu nous a donné. En fait, c'est la preuve que l'Esprit est à l'œuvre dans nos cœurs, qu'il est en train de nous changer. C'est lui qui nous a donné ce désir de changer et d'obéir, même si parfois on n'y arrive pas. Au chapitre 8, on commence à sauter des versets là. Donc au chapitre 8 et au verset 7 à 9, nous lisons. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par la nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Cette lutte, ce désir de suivre ce qui plaît à Dieu, c'est l'Esprit qui nous a donné ce désir. Oui, on suit très imparfaitement le Seigneur. On a tous des progrès à faire. Et ne serait-ce que le fait d'avoir ce désir, d'être frustré par le fait qu'on n'arrive pas à obéir comme on veut, c'est la preuve que l'Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Et la présence du péché fait partie, malheureusement, de la vie chrétienne normale. Si jamais quelqu'un vous dit qu'on peut avoir la victoire totale, définitive dans cette vie, il ment. Mais fort de la grâce, fort de l'Esprit, on peut faire des progrès. Nous pouvons lutter contre le péché. Et l'Esprit nous aide. Il nous aide dans notre faiblesse. Il prie pour nous. Il nous assure que nous sommes définitivement des enfants de Dieu, pardonnés, aimés, plus sous la condamnation, adoptés. Et je vous invite à voir ça au verset 15 à 17 du chapitre 8. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Un enfant de Dieu, parce qu'il est un enfant de Dieu, ressemble aussi à Christ, au Fils, lui qui a souffert. La souffrance n'est pas un signe que l'Évangile est inefficace. La souffrance n'est pas le signe que Dieu est contre nous, ou que nous avons failli d'une certaine manière. Elle fait partie de la vie chrétienne normale. En attendant la restauration de toutes choses, quand Dieu renouvellera toute la création. Plus loin au verset 28, Paul veut nous convaincre que même la souffrance fait partie des desseins souverains de Dieu. Il s'en sert pour nous changer, pour affiner notre foi, pour nous conformer à l'image de son Fils, lui qui a souffert. Le verset 28, c'est un verset qu'on cite assez souvent. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu nous fait passer par la souffrance. Ce n'est pas la preuve que Dieu ne nous aime plus. Au contraire, c'est le plan de Dieu pour que nous puissions ressembler de plus en plus à Jésus. À Jésus qui, lui, a appris l'obéissance par sa souffrance. Cette lutte contre le péché, cette souffrance, parfois parce qu'on est chrétien, parfois parce qu'on vit simplement dans un monde déchu avec la maladie, des accidents, des malheurs. Tout ça, Dieu s'en sert pour affiner notre foi, pour nous faire ressembler à Jésus, pour fortifier notre espérance. Ça nous fait languir après Christ. Dieu sait ce qu'il fait, et même ces choses-là ne vont pas nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous a donné son Fils, ce cadeau, ce Christ qui a souffert sur la croix, pour que nous puissions ne pas subir la condamnation de Dieu. Tu as fait la partie la plus difficile en donnant son Fils. Il ne va pas nous laisser là. Il ne va pas nous abandonner. Nous avons la paix avec Dieu de manière permanente. Nous sommes ses enfants adoptifs de manière permanente. On ne va pas se faire désadopter. Ça ne se fait pas. Si on est adopté, c'est pour la vie, c'est pour toujours. D'où les promesses à la fin du chapitre 8. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je pense que ça nous arrive tous de douter. Dans les moments où le péché semble nous avoir terrassés, vaincus, dans les moments où la maladie semble dire à notre cœur que Dieu ne s'intéresse plus à nous, ou dans les moments où nous nous sentons très seuls, peut-être au travail, quand il y a du mépris parce qu'on est chrétien, peut-être en famille, peut-être parce qu'on a un conjoint qui n'est pas chrétien, quand on vit cette solitude. On doute parfois. Mais vous savez, la victoire est déjà acquise. Jésus l'a déjà acquise sur la croix. Et dans notre faiblesse, par la foi, rien que par la foi, nous sommes à lui, en lui, cachés en lui. Et personne, rien ni personne, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est chose certaine. Est-ce que vous croyez ça? Dans les moments difficiles, il faut revenir à ces vérités-là. Il faut les redire à nos cœurs qui sont souvent si oublieux, si faibles. Paul n'a pas honte de l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile sauve vraiment. Oui, il y a cette lutte contre le péché. Il y a la souffrance dans nos vies. Et Dieu n'est pas pris au dépourvu par ces choses. Dieu est en train d'œuvrer dans nos vies. Ce salut est déjà acquis. Nous n'avons pas à avoir honte de l'Évangile. C'est chose certaine. Et Paul a écrit ces choses à l'église de Rome pour que ces chrétiens romains deviennent des partenaires avec lui, pour qu'ils le soutiennent dans sa mission vers l'Espagne, vers les Espagnols de l'époque, pour qu'eux aussi puissent avoir cette même assurance, pour qu'eux aussi puissent connaître cet amour, ne pas être séparés de cet amour. Et Dieu nous a donné cette assurance, nous aussi, pour que demain, après-demain, auprès de nos collègues, auprès de nos familles, auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous avons l'assurance et nous pouvons annoncer avec courage et assurance cette même bonne nouvelle, ce même message de salut, cette même puissance. Dieu peut sauver qui que ce soit, rien que par la foi. Quelle que soit la lourdeur de leur faute, il peut sauver les pires pécheurs comme nous. Parce que cet évangile est vraiment la puissance de Dieu. Et on va prier, on va remercier Dieu pour ça. Notre bon Père Céleste, nous reconnaissons que nous sommes ces pires pécheurs, que nous méritons ta condamnation, qu'il n'y a rien en nous qui peut satisfaire ta justice divine, qui peut te plaire. Mais merci de nous avoir donné ton Fils, lui qui est pleinement agréable. Tu lui as dit lors de son baptême, voici mon Fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Tu l'as redit à la transfiguration. Tu l'as redit d'une autre manière à la résurrection. Voici mon Fils bien-aimé. Merci notre Père de nous avoir donné Jésus, de nous avoir unis à lui par la foi, de nous avoir rendus agréables et justes en lui. Merci pour sa vie parfaite, parfaitement obéissante. Merci pour sa mort qui satisfait ta justice. Merci de ce qu'en lui tu peux nous déclarer juste, acceptable. Merci parce que nous pouvons maintenant entrer dans ta présence, connaître cette paix, cette relation d'amitié et cette assurance de la vie éternelle. Tout dépend de lui, pas de nous. Et fort de la connaissance de cette grâce, donne-nous cette semaine de lutter contre notre péché, de te faire confiance même dans les souffrances et d'annoncer ce salut si puissant à ceux qui nous entourent. Donne-nous de voir qu'eux aussi, ils ont besoin de ce salut qui est offert à chacun qui soit en Christ. Sers-toi de nous cette semaine pour annoncer cette foi et enracine-nous dans l'Évangile pour que nous ayons cette assurance pour l'annoncer. Et nous te demandons ces choses en son nom. Amen.